Laudetur Jesus Christus.
C'était il y a plus de 130 ans, mais elle n'a peut-être jamais été aussi actuelle. Le 15 mai 1891, en pleine révolution industrielle européenne, Rerum Novarum était partagé. Retour sur un pilier fondateur de la doctrine de l'Église et du prochain pontificat dans notre dossier en fin de journal. Préserver le mode de vie des chrétiens d'Orient sur leur terre, mais aussi dans la diaspora. Nous reviendrons également ce matin sur l'appel hier de Léon XIV. Et puis à la une de l'actualité internationale, les premiers pour parler direct entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, la stratégie de Donald Trump vis-à-vis d'Israël, et enfin direction le Tigré en Éthiopie où le principal parti d'opposition vient d'être interdit.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une exhortation qui donne la couleur du pontificat. Le pape Léon XIV appelle à préserver et promouvoir l'Orient chrétien, en particulier dans la diaspora. Alors que certaines basiliques romaines ont résonné de rites orientaux pour leur jubilé, le jubilé qui leur était consacré ces derniers jours, le pape hier a fait l'éloge des spiritualités orientales, entre autres via leur rapport au monde latin. Léon XIV qui n'a pas manqué de mettre en garde contre la corruption de ces riches traditions, corruption par le consumérisme ou l'utilitarisme des sociétés occidentales. Monseigneur Pascal Gollnisch est directeur général de l'Œuvre d'Orient et vicaire général des catholiques orientaux en France. Il revient sur ce danger.
Il y a ce danger qui vise tous les chrétiens dans les pays occidentaux, dans les pays riches, où parfois la famille se distend. Et il y a donc ces risques pour tous les fidèles, qu'ils soient occidentaux, latins ou orientaux. Mais je crois peut-être qu'il y a un autre risque. C'est aussi le risque que ces communautés qui sont appelées à conserver leurs traditions et leurs racines se referment pour les conserver, ce qui serait un mauvais calcul. Il faut que ces communautés orientales trouvent leur place dans la société, dans l'Église des pays où ils se trouvent, tout en gardant leurs particularités. Et donc cette ouverture, vous voyez, par exemple, une communauté orientale en France, il faut qu'elle soit ouverte à la société française. Mais il ne faut pas que cette ouverture à la société française entraîne pour les fidèles des difficultés à rester chrétiens. On sait bien que la vie libérale, un peu aisée, matérialiste, est un danger pour la foi. Il faut résister à ce danger, mais il ne faut pas non plus se refermer sur soi-même. Il y a donc là un équilibre à trouver, et c'est précisément le rôle d'un ordinariat d'aider à trouver cet équilibre.
Voilà Monseigneur Pascal Gollnisch, vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France, au micro de Delphine Allaire. Et autre temps fort du discours du souverain pontife hier, l'appel à la paix et la disponibilité répétée du Saint-Siège. Je mettrai tout en œuvre pour que cette paix se répande, le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux, a déclaré Léon XIV. Eux ne se regarderont pas droit dans les yeux et pour cause, Vladimir Poutine ne vient pas à Istanbul pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Hier soir, le Kremlin a finalement dévoilé la composition de la délégation russe qui fait le déplacement. Pas de président donc, pas non plus de chef de la diplomatie. La délégation russe se limitera aux conseillers présidentiels et deux vice-ministres. Ces négociations directes sont les premières depuis 2022 entre l'Ukraine et la Russie. Directes, mais avec un troisième participant, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il attend depuis des années cette rencontre à Ankara, à Nandlower.
Recep Tayyip Erdogan attend ce moment depuis trois ans, depuis l'échec au début de la guerre au printemps 2022, de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine en Turquie, qui avaient fait naître des espoirs de paix jamais retrouvés depuis. À l'époque, Kiev et Moscou avaient annoncé s'être entendus sur un texte commun, jamais publié, mais dont on a appris plus tard, via des fuites dans la presse, qu'il aurait pu mettre fin au conflit en proclamant la neutralité de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité. Cet échec est toujours resté en travers de la gorge de Recep Tayyip Erdogan. Depuis, le chef de l'État turc n'a jamais cessé de proposer ses bons offices, se disant prêt des dizaines de fois à accueillir de nouvelles négociations, soignant ses relations avec Vladimir Poutine, autant qu'avec Volodymyr Zelensky, soutenant à la fois l'Ukraine tout en ménageant la Russie. De fait, quelle que soit l'issue de ces discussions d'Istanbul, c'est déjà une victoire diplomatique pour le président turc qui confirme le rôle géopolitique majeur de son pays dans sa région et sur la scène mondiale. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Lui non plus ne se rendra finalement pas en Turquie. Le président américain Donald Trump, qui achève aujourd'hui sa visite au Moyen-Orient. Le milliardaire républicain a rencontré hier le président syrien. L'islamiste Ahmed al-Sharaa, un temps sur la liste des personnes recherchées par la Maison-Blanche. Un homme jeune et séduisant, dit Donald Trump. Après avoir annoncé, cela marque un changement de cap majeur, la fin des sanctions américaines contre la Syrie. Cette rencontre entre le chef de l'État syrien et américain était la première depuis 25 ans. Donald Trump, qui n'en oublie pas pour autant son allié israélien et son souhait de voir les accords d'Abraham s'étendre dans la région. L'analyse d'Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes au Moyen-Orient.
De toute façon, les États-Unis resteront aux côtés d'Israël, resteront engagés dans la sécurité d'Israël. Ce que veut bien montrer Trump, c'est que la stratégie jusqu'au boutiste de Netanyahou va à l'encontre de ses propres intérêts. Et donc, à partir de là, il est prêt à aller voir les ennemis, si je puis dire, ou en tous les cas, d'autres partenaires qui ne plaisent pas à Netanyahou, pour bien montrer à Netanyahou que s'il continue dans cette voie-là, lui est prêt à continuer son chemin à lui qui correspond à ses intérêts. Et c'est en ça qu'il y a une grosse différence avec l'administration précédente, où Netanyahou pensait qu'avec l'arrivée de Trump, il pourrait faire absolument ce qu'il veut. Or, c'est pas du tout le cas. Trump a ses intérêts. Ses intérêts, c'est le business. Donc, je le répète, il ne lâchera pas pour autant la sécurité d'Israël. Il faut pas se tromper. Le soutien restera ce qu'il est. Mais aux conditions de Trump. Et si les conditions de Trump, c'est de dire à Netanyahou, maintenant, on arrête cette guerre, elle ne mène à rien et elle m'empêche de mener les opérations comme je l'entends, eh bien, je te montre que je suis capable d'aller dans un sens qui ne te convient pas. Je pense qu'on est vraiment dans cette logique. Et n'oubliez pas un dernier point qui va peut-être paraître secondaire ou anecdotique, c'est que Donald Trump rêve d'avoir le prix Nobel de la paix. Et donc, la stratégie menée par Netanyahou ne peut pas lui permettre de mettre en avant sa capacité à obtenir la paix. Et donc, c'est ça aussi qui se joue.
Agnès Levallois de l'IRMO au micro d'Alexandra Sirgan. Cela fait 15 ans qu'ils attendent justice en Guinée après le massacre du stade de Conakry en septembre 2009, dans lequel au moins 156 personnes étaient mortes. Les familles des victimes ont reçu les premières indemnités. En mars dernier, la junte au pouvoir avait débloqué un budget de 12 millions d'euros pour financer les indemnisations longtemps attendues. Cet épisode est l'un des plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée. Les victimes avaient été tuées par balles, couteaux, machettes ou baïonnettes dans la répression d'un rassemblement de l'opposition au stade de Conakry. En Éthiopie, c'est un nouvel acte dans les tensions qui oppose le Front de libération du peuple du Tigré au gouvernement fédéral éthiopien. Et cela malgré la fin de la guerre civile. Le principal parti de cette région du nord du pays vient d'être radié. À Addis Abeba, Augustine Passy.
La décision est tombée hier. La Commission électorale nationale éthiopienne a radié le Front de libération du peuple du Tigré pour ne pas avoir respecté ses obligations légales. Le parti majoritaire dans cette région septentrionale d'Éthiopie pourra toutefois demander à être réenregistré en vue des élections prévues en 2026. Le FLPT avait déjà été suspendu pour 3 mois en février pour ne pas avoir organisé son assemblée générale. Le parti est en effet rongé par les divisions internes, sur fond de retard dans la mise en œuvre de l'accord de Pretoria, qui a mis un terme à la guerre contre les troupes fédérales il y a 2 ans et demi. En août 2024, Getachew Reda, alors président de l'administration intérimaire du Tigré, a été exclu du parti. Depuis, ce dernier a été remplacé par Tadesse Welede, qui dirige par ailleurs les forces de défense du Tigré, le bras armé de l'organisation. Les échanges entre le FLPT et Addis Abeba demeurent tendus, les responsables politiques tigréens accusant le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir abandonné le million de réfugiés qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Je vous le disais en titre, ce 15 mai marque la date de la publication d'une des encycliques les plus célèbres du 19e siècle, celle de Léon XIII, Rerum Novarum, un texte qui explique en partie le choix du pape de s'appeler Léon XIV, comme il l'a confié aux cardinaux en les rencontrant samedi dernier. Léon XIV a précisé que l'encyclique avait abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle et qu'aujourd'hui, l'Église offrait à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Rerum Novarum, publié donc le 15 mai 1891, en pleine mutation de l'Europe, a considérablement marqué non seulement l'Église, mais aussi l'ensemble de la société, de par sa forte résonance dans les milieux sociaux, économique mais aussi politique. Alors aujourd'hui, comment qualifier ce document? La réponse avec Jean-Marc Tiki, membre associé du Centre d'études en sciences sociales du religieux de l'EHESS. On l'écoute.
Je pense qu'on pourrait la qualifier tout d'abord de politique et de sociale, et puis d'innovatrice surtout, puisque finalement c'est la première fois au XIXe siècle que l'Église prend position sur la question de la juste rétribution du travail et de la place du travailleur dans le processus de production. Auparavant, il y avait une réflexion sur le travail, mais elle n'était pas du tout organique et elle était dans une perspective de charité, en quelque sorte, pas de droit ni de justice. Et c'est précisément la grande innovation de Léon XIII d'avoir publié ce texte qui, finalement, sert de fondement à l'ensemble des textes du magistère pontifical, y compris sous Pie XI, et jusqu'à la Laborem Exercens de Jean-Paul II.
Rerum Novarum, est-ce qu'on peut la qualifier de tentative de la part du pape, de contester un peu la mainmise du socialisme, du mouvement socialiste sur le monde ouvrier à l'époque?
La grande préoccupation de l'Église à l'époque, en tout cas du Saint-Siège, c'est de voir le développement d'un mouvement ouvrier extrêmement structuré, extrêmement puissant, je pense en particulier à l'Allemagne, et qui vaut beaucoup, beaucoup de préoccupations au siège apostolique, avec cette idée de la crainte de perdre son influence dans la classe ouvrière.
Quelles sont les principales innovations de cette encyclique?
Tout d'abord, c'est de prendre acte du fait que le socialisme n'est pas une solution et peut avoir des conséquences tout à fait néfastes sur la société. Ensuite, c'est de dénier l'idée d'une lutte des classes, qui est complètement contraire pour le pape à la doctrine de l'Évangile. Et inversement, de mettre en avant la dignité de chacun, la dignité de tous les hommes, y compris les ouvriers, pour faire en sorte que les patrons prennent en considération précisément la nécessité de les rétribuer correctement, avec enfin une espèce d'invocation, de demande faite à l'État et au pouvoir public de faire en sorte que le bien-être, la situation des travailleurs soit respectée et soit un objet de protection de la part de la puissance publique.
Comment ont réagi entre guillemets les capitalistes?
Il n'y a pas à l'époque de syndicats patronaux aussi puissants et aussi organisés qu'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre d'entrepreneurs, je pense par exemple à un homme comme Ferron-Vraux, mais il y en a d'autres, ont essayé de mettre en œuvre, notamment dans le patronat dans le nord de la France, par exemple, une frange du patronat catholique, a tenté de mettre en œuvre ces directives du pape et du reste a participé également à la relative émancipation de leurs collaborateurs, avec une forte dimension religieuse là-dedans, une espèce d'unité sous la bannière véritablement de la religion.
Quelle est l'actualité de ce texte qui parle de choses qui ne sont plus nouvelles par définition aujourd'hui?
Je pense qu'elles sont plus nouvelles en Occident, en quelque sorte, ou dans le monde développé. Elles résonnent d'une façon tout à fait singulière du côté de Chiclayo ou en Amérique du Sud ou en Asie, dans lequel précisément la condition individuelle des travailleurs est encore très précaire. Et je pense que c'est ça aussi auquel le pape pense quand il fait des déclarations, précisément en soulignant l'actualité de la pensée de Léon XIII sur ce sujet.
Du coup, on peut dire que Léon XIII est un peu le premier pape moderne.
Ce qui est clair, c'est qu'il a énormément réfléchi, énormément produit. Il a produit plusieurs dizaines de lettres et d'encycliques. C'est un intellectuel, c'est un homme qui a vraiment réfléchi et qui, en effet, a essayé de trouver un juste point entre la préservation de la tradition et la nécessité de la modernité. Et j'en veux pour preuve son choix de recourir, par exemple, au néotomisme, à cette analyse du monde et à l'aune de la pensée de saint Thomas d'Aquin, avec une forte dimension d'actualité et de souci de prendre en compte le monde tel qu'il est, et pas seulement le monde tel qu'on pense qu'il a été finalement. C'est vraiment un homme tout à fait tourné vers l'avenir.
Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Jean-Marc Tiki était ce matin l'invité de Radio Vatican. Merci de votre écoute. L'information revient tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon jeudi.